signe des temps. Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un nombre croissant d'écrivains français croient aujourd'hui pouvoir s'affranchir de la fiction au seul bénéfice de la vérité. Les réseaux sociaux, le virtuel, les fake news, s'ajoutant désormais aux mensonges traditionnels du système et des médias de masse, auraient achevé de déréaliser un monde que seule une littérature libérée de la fiction parviendrait encore à décrire. La vérité, la réalité, termes d'autant plus interchangeables que plus personne n'essaie de les définir, jaillirait ainsi de la plume de ces écrivains directement sur la page, sans plus le recours à ce que l'on appelait il y a encore peu l'autofiction. Je m'adresse au lecteur comme à un ami, explique par exemple Emmanuel Carrère au micro d'Olivia Gesbert sur France Culture. J'aimerais être capable de faire des livres qui soient comme une conversation amicale. Et avec un ami, on n'invente rien, on dit tout sans s'épargner. D'Emmanuel Carrère, justement, à Camille de Toledo, en passant par le procès d'Édouard Louis, dont le verdict est tombé jeudi dernier, plusieurs affaires plus ou moins graves viennent illustrer ces temps-ci les problèmes que pose ce nouveau rapport à la vérité. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Judith Lioncamp, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice d'études à l'EHESS et vous avez publié chez Gallimard en 2019 « La griffe du temps, ce que l'histoire peut dire de la littérature ». Gisèle Sapiro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS, directrice d'études à l'EHESS. Vous sortez en ce moment « Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur au seuil ?» Claude Arnaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romancier, essayiste. Vous avez publié en 2006 « Qui dit je en nous, une histoire subjective de l'identité ». Vous allez sortir en janvier prochain « Le mal des ruines », dont on va un peu parler tout à l'heure, qui n'est pas une fiction justement, qui est un livre d'enquête à la fois sur votre famille et sur la Corse. Et enfin, Emmanuel Pierra, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat, vous avez été l'avocat de Houellebecq contre Lire en 2001, entre autres choses. Vous êtes aussi président du jury du prix Sade, vous êtes auteur, conservateur du musée du Bureau de Paris, secrétaire général du musée Yves Saint-Laurent de Paris, ce que j'ignorais. Et vous êtes l'avocat de Gabriel Matzneff, de Didier Héribon, et surtout d'Édouard Louis, dont on va parler maintenant, puisqu'Édouard Louis est un des écrivains qui se dit écrivain de la vérité, c'est le terme qui a été employé, y compris à l'audience, par Didier Héribon, qui représentait Édouard Louis, puisqu'Édouard Louis n'était pas là lui-même. Et le verdict est tombé donc cette semaine. Le tribunal, il s'agit donc du procès de celui qu'on disait l'agresseur présumé d'Édouard Louis, Reda, qui apparaît dans le livre « Histoire de la violence », écrit par Édouard Louis pour raconter l'agression, le viol dont il dit avoir été victime en 2012. Et le tribunal a condamné Reda, le personnage, et donc le prévenu pour vol, mais l'a relaxé des chefs d'agression sexuelle. Et vous avez annoncé le 10, c'est-à-dire deux jours après le verdict, vous avez annoncé faire appel. Enfin, le parquet a annoncé avoir fait appel, et vous avez aussi annoncé faire appel. Ce qui est une première question, puisque normalement, il me semble qu'on peut pas faire appel d'une décision correctionnelle.
Je peux faire appel des dommages et intérêts. La partie civile, d'ailleurs, ne pouvait pas, d'ailleurs, en première instance, demander une condamnation pénale. Hein. C'est toujours le parquet et le procureur. Moi, mon rôle comme avocat de partie civile, et c'est moi qui représentais Édouard Louis, et non pas Didier Héribon qui le représentait. Didier Héribon était
et
témoin.
Il le représentait à l'audience
était parce témoin. Qu'il... Non, c'est Didier Héribon était témoin. C'est différent. Il n'était pas là pour donner la parole d'Édouard Louis. Il l'a recueilli en tant qu'ami, en tant que témoin, en tant que mentor intellectuel. Mais je représentais Édouard Louis juridiquement, qui avait le droit de ne pas être présent à son procès. Et l'appel, je l'ai interjeté, mais j'ai attendu surtout que le parquet le fasse. Le parquet le fait, estimant que l'agression sexuelle doit être retenue, ce qui était un viol à l'origine est requalifié en agression sexuelle parce que les cours d'assises sont encombrées. Et donc la justice, en opportunité, comme elle dit, c'est son langage, choisit de demander, et souvent les victimes, les parties civiles acceptent que les affaires de viol soient requalifiées en agression sexuelle, parce que l'on n'est plus jugé devant une cour d'assises, mais devant un tribunal correctionnel avec des magistrats professionnels, et on gagne du temps, paraît-il, sur la procédure. En tout cas, donc le parquet a fait appel, et mon appel s'inscrit dans la suite de cette procédure. Donc, pour ma part, en cour d'appel, je ne pourrai toujours pas demander la condamnation pour une peine de prison ou d'enfermement ou d'amende, et me contenterai de demander qu'Édouard Louis soit reconnu comme victime.
Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a une question préalable. Est-ce qu'Édouard Louis veut ou ne veut pas de ce procès ? C'est pas complètement clair. Vous avez dit dans votre communiqué qu'Édouard Louis avait fait de même, il avait fait appel lui aussi. Geoffroy de la Gannerie, qui a publié le même jour sur Facebook, Geoffroy de la Gannerie étant un des deux amis intimes d'Édouard Louis qui l'ont accompagné dans cette procédure, a publié un post dans lequel il dit « c'est avec soulagement pour Édouard Louis que cette histoire s'arrête ». Donc, s'il laisse entendre que Édouard Louis ne voulait pas continuer la procédure. Et dans le dossier, Édouard Louis est cité dans son entretien avec l'expert, disant « J'ai demandé à mon avocat de faire cesser le plus rapidement possible la procédure en 2016 ».
Alors, deux précisions. La première, c'est que Geoffroy de la Gannerie s'exprime avant que le parquet n'ait fait appel. Et juridiquement, mon appel n'est recevable qu'à partir du moment où le parquet faisait appel, il fallait que j'attende. Donc quand Geoffroy de la Gannerie parle jeudi matin, l'histoire s'arrête parce qu'il n'y a pas encore l'appel du parquet. Depuis, elle reprend. En reconnaissant aussi que le tribunal a condamné l'agresseur d'Édouard Louis pour un vol avec étranglement. C'est pas une petite chose, un vol avec doublement aggravé au domicile de la victime, avec étranglement, et puis il a reconnu aussi coupable dans une autre affaire, pour une autre victime qui était à l'audience, un garçon pour laquelle la juge d'instruction avait estimé qu'il avait sans doute été violé, mais que dans la mesure où il ne souhaitait pas parler de son homosexualité en public et qu'elle soit étalée aux yeux de sa famille, il avait juste décidé de poursuivre pour le vol de son téléphone portable à la suite...
Vous ne répondez pas sur l'état d'esprit d'Édouard Louis par rapport à la
procédure. L'état d'esprit d'Édouard Louis, il est simple. Quand on lit le livre d'Édouard Louis, Histoire de la violence, on le comprend. Son état d'esprit, c'est d'être à la fois pour être reconnu comme victime et de ne pas vouloir que son agresseur soit envoyé en prison. Alors c'est une position qui peut vous paraître étrange, mais qui me semble moins cohérente. On peut estimer qu'on a le droit d'être reconnu comme victime d'un viol en France et penser pour autant que le système carcéral, que la peine, on va dire dans un esprit un peu foucaldien, vous me pardonnerez cette accaparation, mais que la prison n'est pas la remède idéal aux viols, aux agressions sexuelles, même aux meurtres ou aux infractions pénales en général. Et donc toute la problématique d'Édouard Louis, mais qu'il développe très bien dans Histoire de la violence et qu'il a raconté dans différentes interviews, c'est de vouloir à la fois être reconnu comme victime et ne pas vouloir que son agresseur croupisse dans une prison dans laquelle il ne sortira rien de bénéfique. Et d'ailleurs, ce garçon a fait 9 mois de prison. Il a aujourd'hui un casier encore plus long que le bras. Il l'avait déjà avant de rentrer. Je ne pense pas que la prison en ait fait un citoyen exemplaire.
Alors, on va y revenir sur cette histoire de prison. Mais d'abord, il faut, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, qui est la question de la réalité, il faut rappeler très rapidement les faits. À Noël 2012, donc, Édouard Louis rencontre Place de la République un inconnu qui va appeler Reda dans le livre et qui s'appelle Riyad au procès. Simplement le prénom. Donc les deux, Édouard Louis invite Reda chez lui. Les choses dégénèrent. Le lendemain, Édouard Louis va faire un examen médical d'une part, et puis il retrouve ensuite Didier Ribon et Geoffroy de la Gannerie qui l'incitent à porter plainte pour viol dans un premier temps, avec menace de mort puisqu'il y a une tentative d'étranglement. Reda est arrêté 4 ans plus tard, en janvier 2016. Entre-temps, Édouard Louis est devenu une star littéraire en France et internationale. Et par coïncidence, c'est au moment où Édouard Louis sort Histoire de la violence, qui raconte cette agression, et c'est là qu'on rentre dans le sujet de cette émission, à François Bunel, lors de son passage à la Grande Librairie en janvier, Édouard Louis déclare « Après l'avoir vécu, j'ai ressenti une presque nécessité à raconter cette histoire. C'est comme si le monde dans lequel on vivait était un monde de violence. » J'ai eu envie de combler cet écart entre ce qu'on dit de la réalité et la réalité. Et dans toutes ses interviews, il va répéter avoir été victime d'une agression et que tout ce qui est arrivé dans la réalité est raconté dans le livre. Il n'y a absolument aucune différence entre l'un et l'autre. Vous-même, à l'audience, vous avez dit que les juges devraient lire le livre pour comprendre ce qui s'est passé.
Bien sûr.
Pour finir, dans la procédure, les déclarations d'Édouard Louis, et c'est ce que retient le tribunal, le contenu des dénonciations, dit le tribunal, n'a jamais été repris à l'identique par Édouard Louis. Et ce qui est dit au juge d'instruction par Édouard Louis n'est pas exactement ce qui est dit dans le livre.
La difficulté, c'est que le juge d'instruction n'a pas voulu lire le livre. C'est une position politique, pourquoi pas, mais que je trouvais, moi, inacceptable, et que je continue à trouver inacceptable, et que je pense être une carence, une faillite ou une défaillance de la part du système judiciaire. On ne peut pas aujourd'hui considérer dans une affaire pénale dans laquelle un écrivain a raconté sur plus de 200 pages le viol qu'il a subi, et toute la complexité de sa pensée sur la prison, sur le déterminisme social, sur le fait d'être agressé par un jeune homme d'origine nord-africaine, en l'occurrence il s'avère sans papier aujourd'hui, enfin ce qu'on sait a posteriori grâce à la procédure. On ne peut pas lui faire le reproche d'avoir toute cette complexité de pensée, de ne pas vouloir la lire, et de se contenter d'auditions recueillies par la police. J'ajoute que votre exposé des faits liminairement, vous me pardonnerez, Marc Weizmann, vous n'êtes pas magistrat, mais un tout petit peu laconique. Édouard, lui, a d'abord été violé par ce jeune homme. Ensuite, il a été une première fois dans un commissariat de police où on lui a dit qu'il fallait représenter sa plainte dans un autre commissariat avec un service spécialisé pour recueillir les auditions de personnes violées. Donc, dans un deuxième commissariat, il a raconté longuement ce qu'il lui est arrivé. C'est ensuite que les policiers spécialisés l'ont emmené à l'Hôtel Dieu, aux examens médicaux légaux. C'est là qu'on regarde les victimes de viol, et c'est fait un peu sérieusement, très différemment de ce qui se passe pour si vous allez chez un médecin généraliste. Et c'est ensuite, par ailleurs, que Didier Ribon et un certain nombre d'amis, dont moi, ont considéré qu'il devait maintenir une plainte qu'au-delà de raconter ce qui lui est arrivé, il devait, en tout cas, judiciairement, se constituer partie civile.
Mais la question qui se pose...
La question qui m'intéresse, c'est que le tribunal, pas plus que la juge d'instruction, n'a lu le livre. Alors je pense que c'est pas une position politique, c'est une position de paresse par un tribunal encombré, fatigué, qui a beaucoup d'affaires à juger, mais on ne peut pas faire le reproche, et selon moi c'est le grand grief qu'on peut faire à ce jugement, on ne peut pas faire le reproche à une partie civile, à une victime, de ne pas venir à l'audience alors qu'elle a déjà raconté 1, 2, 3, 4 fois, j'en suis témoin, son mais affaire là, devant les services de police et une juge d'instruction, et ne pas vouloir lire le livre dans lequel elle raconte longuement l'agression qu'elle a subie. Ma consoeur qui représentait l'agresseur, avait de même demandé que le tribunal en fait l'impasse, donc la cour d'appel le lira.
La question qui se pose, c'est que à l'époque précise où Édouard Louis dit que tout ce qu'il raconte dans le livre est vrai, il dit à la juge d'instruction, je ne sais plus ce qui s'est passé sur un certain nombre de points qui sont racontés dans le livre en même temps et présentés avec beaucoup de certitude par Édouard Louis comme des faits. Judith Lioncan, sur ce rapport là.
J'en ai pour une seconde, laissera Judith Lioncan que je lisais pas la parole. Avec intérêt. C'est une affaire grave, c'est une affaire de viol, justement. C'est une affaire réelle, ça n'est pas une affaire dans une bande dessinée, vous me pardonnerez. Donc, je précise simplement que lorsqu'il a été entendu chez la juge d'instruction, nous sommes 3 ans et demi après les faits, après un viol. Il vous est arrivé peut-être de lire il y a quelques temps dans la presse, les considérations qu'on peut avoir sur les victimes de viol, les traumatismes, les réticences, les difficultés à parler. Il a raconté ce qu'il a vécu et sa version des faits par 3 fois, devant des services police et médico-légaux. Et devant la juge, il s'est effondré en larmes, j'étais à ses côtés, il a pu être capable de parler.
Non, mais c'était pas la vérité judiciaire qui m'intéresse là. C'est la question de savoir comment on peut à la fois, dans le même temps, à la même époque, dire oui, tout ce qui s'est passé dans mon livre est vrai et voilà les faits, et au juge d'instruction à la même époque, je ne sais plus.
Non, et c'est la question, il confirme, mais ensuite, quand elle lui demande des détails, il dit je ne sais plus. Le livre ayant fini d'être écrit un an plus tôt, l'agression a eu lieu 3 ans et demi avant.
Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de ne pas présenter simplement le livre comme la vérité, mais comme une vérité littéraire?
D'abord, on peut parler de choses graves dans une bande dessinée.
Oui,
bien sûr. Mais là, en l'occurrence,
Ensuite, non, je pense que c'était important de verser ce livre au dossier, évidemment. La question, en effet, intéressante, mais moi je suis tout à fait extérieure à cette affaire, est de savoir pourquoi les juges ne veulent pas lire le livre. C'est une question véritablement intéressante. On comprend la position qui consisterait à dire on ne sait pas quoi faire de ce type d'écrit. Bon, même si ça peut faire preuve, puisque tout peut faire preuve, on ne sait pas quoi faire de ce type d'écrit et on est gêné. Donc, étant gêné, on le met de côté. Bon, moi, ça me semble problématique dans la mesure où c'est un écrit qui élabore une vérité à partir de ce qui s'est passé. Mais en fait, c'est ce problème de l'élaboration d'une vérité qui pose problème au juge. Voilà. Bon, c'est tout. C'est qu'il ne sait pas quoi faire de cette épaisseur d'écriture qui situe le livre dans la littérature. Et qui donc est à la fois intimidant, gênant, puisqu'on ne peut pas, de la lecture du livre, élaborer des faits qui seraient, je dirais, compatibles avec une argumentation juridique.
Exactement, exactement.
Voilà. C'est ça qui me semble. Mais
voilà. Mais donc on ne peut pas utiliser un livre de littérature comme un argument juridique. Claude Arnaud.
Ça, je ne pourrais pas répondre. Je suis ni avocat, ni plaignant. C'est très complexe. Je pense que ça devrait pouvoir s'utiliser. Si, ce qui me semble problématique, moi, dans cette affaire, c'est de considérer qu'un écrivain dit la vérité. Je suis extrêmement sceptique sur cette notion-là. La vérité, avec un grand V, je crains d'abord qu'elle soit plurielle, et il y a autant de vérité que d'acteurs d'une action. Et je dirais même qu'à l'intérieur de soi, la vérité, elle est très souvent discutée et partagée par plusieurs composantes de sa propre personnalité. Et un écrivain, à mes yeux, est quelqu'un qui a déjà des éléments problématiques avec sa propre personnalité, qui ne fait pas bloc vis-à-vis du réel, qui n'est pas un seul témoignage, qui n'est pas l'unique témoin de sa vie, qui est une coproduction par ailleurs existentielle, puisqu'il a été coproduit par d'autres, on va pas faire la liste, des parents à la société, aux amis, aux amants. Cette idée d'unicité de la vérité en littérature, pour moi, est quelque chose qui ne passe pas du tout. Pas du tout. Moi, la littérature, c'est précisément une forme d'altération de soi, une forme d'altération du moi, d'hyperacuité et d'hyperperception de ce qu'on reçoit des autres, et s'imposer et se prétendre. Alors après, on pourra discuter le cas précis, qui est évidemment très particulier, d'une agression sexuelle, mais se prétendre généralement en tant qu'écrivain. Là, je sors de l'histoire particulière que Emmanuel Perra défend. En tant qu'écrivain, prétendre à la vérité, c'est, pour moi, ça ne va pas du tout. Ça me fait penser à l'Inquisition, où effectivement un certain nombre de personnes étaient supposées faire dire la vérité. Non, la vérité, c'est un processus jamais terminé. Et la littérature est précisément là pour ne pas clore et ne pas conclure.
Et
pour
ne pas conclure.
La bêtise, c'est de savoir ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on a fait. C'est pas vrai. On ne sait pas très bien. Sinon, on n'écrirait pas. Si on savait tout, on n'écrirait pas.
Mais c'est ça. Mais c'est en dehors de, pour sortir de simplement de l'histoire d'Edouard Louis, il y a une tendance quand même de la part de certains écrivains aujourd'hui à s'affirmer comme disant les choses, disant la vérité. Le rapport au réel serait préservé par les livres parce qu'il ne peut plus être préservé par autre chose, par les médias, par les réseaux sociaux. Et du coup, on a parfois l'impression qu'il y a une réduction de la question de la vérité à la dimension de l'auteur lui-même, en fait.
Oui. Alors, on peut dire que ça, c'est un processus. Alors, si on veut élargir un peu le champ, on a tous senti, je dis nous, écrivains, on a tous senti, je dirais, dans les années 90, une certaine difficulté à faire vivre des personnages de romans qui s'appelaient Jacques Forestier, qui s'appelaient Baron de Charlus, tout ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui ne prenait plus pour nous, et je dirais pour nos lectrices ou nos lecteurs aussi. Quelque chose qui était affadi, comme si le roman du 19e siècle avait largement, utilisé toutes les cartes potentielles de la fiction et de noms qui pouvaient ressembler aux nôtres, mais qui n'en étaient pas. Et qui avait effectivement un gisement dans la réalité telle qu'on la vivait, qui était un peu neuf encore. Et effectivement, tout ça allait avec une énorme curiosité pour une certaine, je dirais, politisation de la privacy, dirait l'anglo-saxonne. Une certaine exposition de sa vie, qu'elle soit intime, sexuelle, affective, exposition de y compris des violences qu'on pouvait subir, des ségrégations qu'on pouvait subir. Donc, une mise en scène de l'aveu de soi, qui est devenu un objet, effectivement, pas simplement sociologique ou idéologique, mais aussi littéraire. Et ça, on a tous senti, dans cette génération-là, après avoir fait des romans, je pense que vous-même, Marc, vous comprenez ce que je veux dire, on a tous après été chercher effectivement du côté de cette ressource de l'intime. Mais cette ressource de l'intime, l'idée de la réduire à soi et de faire de soi l'alpha et l'oméga du processus littéraire me semble pas possible. Ça, c'est pas possible. On en passe par soi, mais soi, c'est aussi autrui, je le redis, c'est une coproduction, et se limiter à ça comme si on ne pouvait plus assumer que sa propre existence et sa propre parole et qu'on devait décréter quelles étaient les vérités, ça, pour moi, c'est un processus dangereux. Je ne dis pas qu'il est critique, mais il est dangereux. Ce n'est pas vrai.
Gisèle Sapiro.
Oui, je voudrais dire que ce livre est à la fois une histoire personnelle, mais c'est aussi une histoire universelle, puisque c'est l'histoire d'une agression sexuelle qui est vécue par d'autres, et que justement ce récit, c'est une manière de se réapproprier un vécu dont l'auteur, le narrateur, se sent dépossédé par les procédures de production des récits, et c'est problématisé dans tout le livre. Il y a un dispositif narratif, l'histoire est racontée par sa sœur à qui il a raconté l'histoire, il y a toute une problématisation du témoignage produit face aux policiers, où il dit texto: je ne reconnaissais plus ce que je disais, je ne reconnaissais plus mes propres souvenirs quand je les racontais. Donc il y a le caractère indicible d'une expérience comme celle-là, la difficulté de mettre des mots pour le définir, et le prisme déformant des récits qui sont produits de cette histoire. Il y a les infirmières, les médecins, et donc moi je trouve que c'est un livre qui est extraordinaire sur la manière de problématiser cette question du témoignage et de comment cette quête de la vérité, parce que lui-même il essaye de comprendre ce qui se passe dans ce procédé. Il y a des versions contradictoires, par exemple la sœur pense que Reda avait prémédité ce qu'il a fait. Edouard, donc, qui est pense que non, ou que tout au plus le vol, mais pas la suite violente qu'il décrit. Donc il y a une tentative d'analyser ce qui se passe. Et dans ce récit est aussi enchâssée l'histoire de Reda lui-même, et donc d'expliquer les causes en fait qui conduisent.
Mais voilà, c'est par rapport à ce que vient de dire Claude Arnaud, ce qui me semble intéressant, c'est qu'il y a précisément une mise en cause de tout les récits produits par ailleurs, et au bout du compte, le seul récit qui vaille, y compris l'histoire de Reda, n'est validé que par le fait que c'est Édouard Louis qui l'écrit. Il le dit lui-même, enfin, c'est quand il dit « je suis l'écrivain de la vérité », c'est quand même ça que ça veut dire.
Il raconte une vérité qui est la sienne, son vécu. Mais par ailleurs, sur Reda, il a aussi fait des enquêtes sur les foyers d'immigrés, où était le père de Reda. Donc ça n'est pas simplement la manière dont lui, il a entendu cette histoire. Il fait un vrai travail. C'est quelqu'un qui a aussi une formation de sociologue. Il fait un vrai travail pour essayer de comprendre les modalités de production de ces récits, et aussi des déterminations sociales qui conduisent les uns et les autres. Il y a un moment où il décrit comment les choix, l'espace des choix se rétrécit, à la fois dans son récit, lorsqu'il produit, face aux policiers, il dit chaque mot que je disais, ça empêchait que je dise autre chose après, donc ça rétrécissait les choix, et il dit la même chose qui se passe dans la nuit avec Reda, chaque acte que nous faisions réduisait l'espace des possibles. Donc ça, c'est une sorte d'analyse sociologique de situation.
Ben, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la sociologie vaut critère de vérité, quoi. C'est-à-dire, il y a une remise en cause des autres témoignages.
J'ai dit qu'il cherche la vérité de son vécu. Il cherche à trouver un langage pour décrire et se réapproprier son récit.
On va pas passer toute l'émission sur Édouard Louis, mais simplement, le livre n'est pas présenté comme une recherche, c'est présenté comme une affirmation. Et lui, dans les interviews, ne cesse de dire que ce qu'il dit,
c'est la vérité de ce qu'il a vécu, et c'est la vérité des témoignages qu'il construit, mais c'est la vérité. C'est la confrontation des narrations aussi qui est mise en travail dans ce récit.
Alors, c'est l'intérêt, à mon avis, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Gisèle, c'est l'intérêt de ce livre, c'est le grand intérêt de ce livre, cette espèce de recherche justement du bon récit, du juste récit, de faire entendre aussi tout le bruissement des récits. La question était de départ de savoir ce que ça peut faire devant une cour. Voilà. Mm-hmm. Et donc, qu'est-ce que les juges qui, eux, doivent parvenir à quelque chose qui est l'objectivation d'un enchaînement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec cette écriture qui, justement, explore différentes directions, fait entendre ce bruissement des récits, ce bruissement social du récit. C'est là la difficulté. Donc, il me semble que c'est pas simple de répondre oui. C'est la preuve ? Non, c'est pas la preuve. Mais est-ce que ça ne doit pas figurer à l'intérieur du dossier ? Si, il me semble que ça doit figurer à l'intérieur du dossier. C'est tout. Enfin, je veux dire.
Par ailleurs, la vérité de ce récit, pour moi, elle est aussi sur la vérité de la honte et de la peur. Et c'est un livre sur la peur, et c'est extraordinaire là-dessus. C'est très très fort. C'est la honte aussi de dire la peur, et le courage aussi d'arriver à dire à un moment je suis devenu raciste, alors que tout le livre est une manière de d'éviter la racialisation de l'agresseur. Et je pense que là il y a bien réussi. Mais d'avouer que en fait, voilà, la peur après avoir vécu cette agression qui le submerge quand il voit des hommes qui peuvent ressembler à Reda.
Alors, il y a un autre livre qui pose plus ou moins le même type de question, qui est le rapport à la réalité, cette fois la réalité biographique, qui est le livre de Camille de Toledo, Thésée, sa vie nouvelle, qui sort en ce moment, et qui raconte une saga familiale sur plusieurs générations, de façon plus ou moins chronologique. Et le livre a été présenté dans la presse, je cite au hasard France Inter, par exemple, comme une enquête biographique permettant à l'auteur de démêler les secrets familiaux, une réflexion sur la façon dont les traumatismes se transmettent en héritage, la manière dont les corps somatisent et font mémoire des drames passés. L'Humanité parle d'un bouleversant récit autobiographique. Camille Laurence dans Le Monde parle d'une confrontation à l'expérience du réel et à l'urgence de dire, c'est-à-dire à la littérature, un livre qui est une magnifique traversée de l'effroi et du chagrin, une quête de sens dont même les points aveugles bouleversent. Et voilà que sur la revue En attendant un ado, un article de Claire Paulian montre comment en fait l'auteur joue avec sa biographie à partir de faits réels, joue avec la biographie familiale et à partir de faits réels comme le suicide réel de son frère, la mort de ses parents, s'invente une généalogie, en l'occurrence juive, pour expliquer les tragédies de sa famille et s'est présenté comme un facteur d'explication à sa propre souffrance et même au suicide de son frère. Donc on a là un facteur d'explication par une fiction qui n'est pas vraiment complètement reconnue comme fiction dans le livre, c'est ambigu au mieux, et qui est présenté comme un récit autobiographique. L'article de Claire Paulian a fait une espèce de scandale dans le milieu littéraire, il y a eu beaucoup de réactions à tel point que Claire Paulian n'a pas voulu venir à cette émission, en raison des réactions agressives auxquelles elle a été confrontée, ce qui pose quand même, entre autres, un problème sur l'atmosphère actuelle dans le milieu littéraire. Judith Loncan, sur le livre un peu, et puis sur cette façon, là, on retrouve un élément qui est quand même l'idée que l'auteur peut décider de ce qui est la réalité factuelle. Je citerai tout à l'heure un extrait d'une interview de Camille de Toledo sur le sujet.
Bon, moi, j'ai pas lu les interviews de Camille de Toledo, donc j'ai essayé d'aborder le livre vraiment en lectrice. Mmh. Et c'est un objet littéraire compliqué. Si on est face à la couverture, simplement, on a trois éléments. On a un nom d'auteur, un titre, Thésée, sa vie nouvelle, et une photographie qui représente un petit garçon. Et si on est un petit peu curieux, on voit que les droits sont archives de l'auteur. Donc la question que se pose le lecteur, c'est quel est le lien entre la photo du petit garçon, Thésée et Camille de Toledo. On rentre dans le livre et on entre dans cet espace d'incertitude où l'on comprend assez rapidement que la photographie renvoie au frère mort, petit frère mort, de l'auteur Camille de Toledo, qui a pris une sorte d'hétéronyme dans le livre, qui est Thésée, qui est le frère qui reste. Et puis apparaît une histoire d'ancêtre. Une histoire d'ancêtre qui fait apparaître donc un arrière-grand-père en lignée maternelle, Altaï, donc un nom juif archaïque, assez étrange pour une histoire qui va raconter celle de l'assimilation à la France et de l'oubli de la prière, histoire qui se rejouerait dans la mort du petit frère et dans l'histoire donc du frère qui reste. Et puis donc une lignée, les enfants d'Altaï, le grand-père Nathaniel, et puis Thésée et Jérôme. Et en avançant dans l'histoire, on comprend que Thésée, Camille de Toledo, raconte son histoire familiale. Et là, il se passe quelque chose puisque les parents apparaissent. Et les parents de Camille de Toledo, il y a trop d'éléments pour qu'on ne sorte pas du livre et aller identifier des personnes tout à fait réelles. Antoine Riboud, l'auteur du discours de Marseille en 1972, grand patron de gauche, qui est présenté comme un grand patron de gauche. Et donc, le Nathaniel du livre est Antoine Riboud et donc se voit, habillé d'une autre histoire qui est une histoire juive, je dirais différemment tragique que celle du drame bourgeois des Riboud. Bon, alors la question que ça pose, c'est c'est pas le problème de se forger une généalogie imaginaire. Je veux dire, tant d'auteurs l'ont fait, le feront, d'explorer en fait les replis de l'identité à l'intérieur d'une généalogie fantasmée, fantasmatique, recomposée. Ça me semble pas être tellement le problème. Il y a deux problèmes à mon avis dans ce livre. C'est le statut qu'il donne aux documents, c'est-à-dire ces photos. À partir du moment où certaines des photos sont des photos de famille réelles, qui renvoient à des personnes effectives, quel est le statut des autres documents ? Mmh. Et qu'est-ce que ça dit du statut du document dans un livre de ce type qui en effet explore les frontières compliquées de l'autobiographie et de la fiction ? Par exemple, il y a ce manuscrit de l'arrière-grand-père Altaï qui est photographié comme un manuscrit. Alors, quand on est un peu spécialiste des graphies du 19e siècle, on se dit que c'est une étrange graphie pour une graphie du 19e siècle. Donc, effectivement, à ce moment-là, on se dit bon, il joue avec les mais peut-être après tout pourquoi pas. Et cette espèce d'incertitude n'est pas gênant. Mais à partir du moment où les autres photographies, elles, sont référentielles, il y a quelque chose qui gêne du côté du statut du document, et ce que Claire Polian appelle, je trouve avec beaucoup de justesse dans son article, de jeter aux yeux du lecteur des poignées du sable oratique des archives, mmh. Cette espèce de voilà de sidération devant la vérité du document avec laquelle manifestement il joue. Alors ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est cette généalogie recomposée. On comprend que Camille de Toledo, dont le nom de naissance est un pseudonyme, donc le nom de naissance est Alexis Mittal, a fait glisser la généalogie de sa famille paternelle du côté de sa famille maternelle, de sorte à raconter l'histoire des Ribou avec l'histoire des deux Toledo.
C'est son
matériau identitaire. Bon, très bien, on n'a rien à en dire, et après tout, justement, c'est là la dimension un peu universelle de la littérature. Mais c'est alors quand même dire que
la revendication de la vérité, elle ne tient pas.
Non, non, mais il n'y a pas
de la part d'un écrivain.
À ce moment-là, il n'y a pas de revendication d'un écrivain.
Mais il n'y a pas de revendication de la vérité dans ce livre.
Je reviens au sujet d'avant. La revendication de la vérité de la part d'un écrivain, d'après moi, elle n'est pas possible. Elle est soit un aveu, c'est au bord de l'imposture, à mes yeux, soit sur un point très précis, évidemment qu'on peut produire un document personnel qu'on estime être très près de la vérité sur un point précis. À partir du moment où il y a un objet littéraire qui s'assume comme tel, qui est une construction narrative, ça veut dire qu'il y a eu des versions demandées à l'éditeur de tous les auteurs de ces livres dont on évoque. On pourrait parler aussi Yoga d'Emmanuel Carrère, il y a eu 40 versions liées à un processus juridique et à des pressions d'avocats. On est tout sauf dans la vérité. Et lui-même le dit, je dirais, de tous les auteurs qu'on cite, c'est peut-être le plus honnête de ce point de vue-là. Et il le dit à la fin de son livre, c'est une construction. Oui, ce personnage de femme américaine, je l'ai inventé. Il est allé dire après, dans les versions off, dans l'affaire juridique qu'il opposait à son ex-femme, que oui, d'accord, son séjour dans l'île grecque n'avait pas duré 3 mois, qu'elle se situait avant la dépression et après. C'est ce que fait un écrivain, qu'il soit de vérité, de mensonge, d'autofiction, de mythographie, d'automythologie. Il compose, il fabrique, il narrative.
Je suis absolument d'accord avec cette... Enfin, je suis pas du tout en désaccord avec ce que vous dites. J'essaye de décrire ce qui, à mon sens, peut poser problème dans ce livre. Voilà. Oui. Il y a le statut du document, et il y a une deuxième chose que je voudrais finir.
Il y a du document, il y a de la fiction,
c'est l'hybridation. C'est le statut du document. C'est qu'est-ce que ça fait au rapport au document.
Est-ce que je peux dire quelque chose sur le document, juste? En fait, si on regarde le texte du grand-père et la transcription qu'il en donne, on voit l'écart, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le nom Ovède dans le document. Donc lui-même met en échec de manière tout à fait explicite question du document.
C'est beaucoup dire quand même.
Il n'est pas obligé de produire le passage où il n'y a pas le nom Ovède.
Il y a une co-présence
dans le livre
de vrais faux documents et de vrais documents.
Voilà. Mais il y a aussi toute la question où c'est pas un récit à la première personne, c'est Thésée. Donc c'est d'emblée on est dans un récit mythologique où il parle explicitement de reprogrammer la généalogie, où il explique pourquoi il rejette sa généalogie, où il y a tout un récit de c'est Thésée, un récit où on, si on connaît la biographie de l'auteur, on sait effectivement que il y a des faits réels qui sont le suicide de son grand frère et la mort du père, la mort de la mère peu après le jour de la naissance de ce frère suicidé et la mort du père 4 ans après. Le père qui lui-même était dans un processus de retour vers le judaïsme peu après sa mort. Et donc, à la fin de ce récit, on voit renaître aussi une sorte de... il y a même une confrontation avec le frère où le frère dit « mais tu vas pas reprogrammer », le frère mort dit « tu vas pas reprogrammer la généalogie familiale » et il dit « si ». Voilà, donc tout ça est mis en scène dans le récit qui n'est pas un récit linéaire à la première personne autobiographique. Et pour moi, ce récit, c'est une histoire collective, c'est l'histoire l'histoire des Juifs maranes, c'est-à-dire de il a pas choisi le pseudonyme de Camille de Toledo par hasard. Effectivement, il y a ça dans il est travaillé par cette histoire, et pour lui, c'est aussi l'histoire de l'assimilation. Les noms Oved, c'est un disciple.
Oui, bien sûr. C'est le thème.
Enfin, tout est travaillé sur ce passage du judaïsme au christianisme. On peut accepter ce récit ou pas, mais ce qui est important, c'est qu'en fait, il oppose ce récit à d'autres récits. Le récit national, par exemple, sur la Première Guerre mondiale, Talmaï, l'ancêtre, en fait, est un émigré de l'Empire ottoman, juif, qui a choisi la France et qui va mourir pour la France. Et en fait, à travers ça, ce qui est dit dans le récit de la dernière partie, qui est vraiment sur la Première Guerre mondiale, c'est de dire... Je reconnais ses ancêtres, ceux qui sont morts pour la France, qui étaient des étrangers, qui étaient des tirailleurs sénégalais. Oui. Je les reconnais comme faisant partie des ancêtres de l'histoire française.
Oui, c'est le problème que j'ai moi avec ça, c'est que c'est un discours. Ça, on n'a pas besoin d'écrire un livre de littérature pour dire des choses comme ça. La question que pose le livre, à mon avis, pose ce type de démarche, elle est donnée par Camille de Toledo dans l'interview qu'il donne à Mediapart. Il dit à un moment donné « Je refuse l'assignation au réel comme état civil. Derrière l'état, il y a le pouvoir. Si le réel, c'est l'état civil, ça signifie que le réel est ce qui est défini par l'état, ce qui serait très problématique. » Et c'est un euphémisme de le dire. Moi, il me semble que dans un certain nombre de cas, on a parlé de Warley tout à l'heure, là on parle de Camille de Toledo, le refus de la loi au sens, le refus du réel, quoi, au sens presque psychanalytique du terme, est ce qui permet à l'écrivain de s'arroger une liberté totale qui le fait sortir de la fiction. On n'est plus exactement dans la fiction, on est dans l'affirmation d'une vérité alternative.
C'est pas le refus du réel, alors, c'est le refus d'une vérité administrative ou judiciaire qui n'est pas la vérité non plus.
C'est toute la question. Claude Arnaud.
Moi, je dirais que évidemment que les écrivains cherchent une certaine vérité, c'est légitime, et je pense que les gens qui lisent aussi cherchent, sont avides de savoir une sorte de vérité, mais cette vérité, elle est sensible. Il faut savoir qu'un écrivain, il la produit à partir d'une sensibilité et d'une subjectivité qui déforme, et qui effectivement n'est pas la vérité administrative, n'est pas la vérité sociologique, n'est pas la vérité idéologique, qui est une construction. Je pense que c'est un pacte où le lecteur et la lectrice doivent savoir qu'on a affaire à une construction. Après, qu'est-ce qui joue? Dire la vérité, je pense que ça n'a aucun sens. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des écrivains qui ont produisent des effets de vérité. Et cette production-là, elle est l'effet de techniques narratives et de constructions narratives. Ça, c'est indéniable. Personne ne peut prétendre. Rousseau est suspect dans plein de passages de ses confessions. Et je dirais, je ne crois pas tellement Rousseau, alors que je dirais, je crois totalement Benjamin Constant. Mais c'est complètement subjectif, là encore. Benjamin Constant est un immense auteur de l'autobiographique, mais je ne suis pas certain qu'il me dise toujours la vérité. Et que même quand il la transpose dans Adolphe, il est toujours sincère. Mais il a l'air sincère. Je pourrais dire Drieu-La Rochelle a l'air très sincère. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont un regard extrêmement critique sur eux-mêmes, ont un rapport à eux-mêmes qui n'est pas excellent, et qui ne prétend pas justement à la vérité définitive, ni à la complaisance, je dirais. Alors c'est un mot très psychologisant qu'on pourrait me discuter. Mais je dirais que ça se joue à chaque cas, la vérité d'un livre. Et il y a pour moi, il n'y a que des effets de vérité. Quelque chose qui vous fait dire, ça, ça sonne vrai. Oui, ça, ça a l'air vrai. J'ai beaucoup lu Gide, qui prétend constamment à la vérité, qui n'a écrit qu'un roman dans sa vie, Les Faux Monnayeurs. Gide, je suis moins sûr qu'il dise la vérité. Mais là aussi, c'est très subjectif.
Oui, mais je pense à moi, des écrivains comme Primo Levi ou Danilo Kish, surtout, parce qu'en matière de manipulation de documents, il y a vraiment ça. Or, ce sont des écrivains qui, Danilo Kish surtout, quand il le fait, la frontière entre la réalité factuelle et la fiction qui s'autorise est toujours préservée, elle est toujours explicite, elle est toujours très claire. Et il me semble que c'est ça qui est en train de disparaître en ce moment. Il me semble que ça pose un problème à la fois éthique et littéraire.
Moi, quand même, le problème du livre de Toledo, c'est à mon avis, c'est pas ça. C'est qu'il y a quelque chose qui, pour moi, relève du kitsch, c'est-à-dire de quelque chose qui est d'autocomplaisance devant une sorte de pseudo-maîtrise sentimentale du passé. C'est-à-dire, la question que je voudrais poser, c'est qu'est-ce que ça fait à l'histoire des Juifs du XXe siècle de devenir l'habit dans lequel l'habit tragique dans lequel on habille on enveloppe
une souffrance intime.
La souffrance d'une famille bourgeoise française pas juive dont je ne nie pas du tout qu'il puisse y avoir des drames familiaux absolument aigus hein. Mais qu'est-ce que ça fait à l'histoire des Juifs de devenir l'habit de cette vérité là et c'est un effet qui me semble moi vraiment qui me dérange, je veux dire comme historienne pour le coup, qui est que ça mythifie l'histoire des Juifs. Ça en devient une sorte de ligne mythique. Alors on voit bien qui va avec une espèce d'absolutisation de la Shoah, qui est quelque chose de qui est un événement presque hors de l'histoire, alors que il est absolument indispensable de le tenir dans l'histoire et de ne pas en faire un motif kitsch. Il y a des passages moi dans ce livre qui m'ont vraiment choquée, par exemple quand il insiste de manière un peu lourde sur le fait que son frère s'est pendu à une conduite de gaz. Il répète comme ça, à une conduite de gaz. Vous vous rendez compte, à une conduite de gaz. Mais qu'est-ce que ça fait aux chambres à gaz de raconter une histoire comme ça? C'est-à-dire, c'est vraiment... Et alors, de ce point de vue-là, il fait exactement le contraire de ce que fait Daniel Mendelsohn dans Les Disparus. C'est-à-dire de partir d'une enquête vraiment rigoureusement documentée pour aller regarder en direction des grands récits mythiques de nos origines, l'Odyssée, le commentaire biblique. Bon, et alors là, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que c'est une sorte de mythification de l'histoire juive pour en faire le langage de l'histoire familiale. Et c'est pas la question de la vérité littéraire. Là, c'est juste que moi, comme lectrice historienne, c'est une démarche à laquelle je ne peux pas adhérer.
Voilà. Alors, si je comprends bien, vous parlez du kitsch vitimaire qui est extrêmement présent depuis une trentaine d'années et que l'autofiction a beaucoup contribué à répandre. C'est-à-dire, je vais vous raconter ma vie, je vais vous raconter ma famille, mais je vais l'enrichir d'un processus de victimisation qui est désormais indispensable pour créer de l'empathie littéraire. Car c'est ça la fin de la fiction dont Édouard Louis revendique la mort. Il n'y a plus de fiction, il n'y a plus rien à inventer. Si, il y a encore à inventer, c'est de la victimisation imaginaire et kitsch. Parce que tout ça est kitsch. Quand l'imagination travaille au profit de sa propre position de victime, et que c'est une victime en partie inventée, il y a du kitsch. Et ça, pour la littérature, le kitsch n'est pas bon.
Il y a bien un Toledo dans la famille.
Oui, par exemple, Nissim de Toledo.
On va devoir arrêter l'émission ici. On va devoir arrêter l'émission ici.
C'est pas complètement imaginaire. Il adhère à une partie de la généalogie familiale.
On doit s'arrêter ici.
Qu'il recompose,
oui.
C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann assistée de Aurélie Marsay avec à la réalisation Luc-Jean Reynaud et à la technique Andreas Joffré, Olivia Branger, Christophe Michou, Nicolas Estorge, Wojtek Noiret, Franck Malabry et Francesca Fossati.